Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com. Le tout terrain au sommaire de cette émission aujourd'hui avec notre spécialiste de la discipline, Guy Pilarczyk. Bonjour.
Bonjour la miche.
Bonjour Guy.
Alors, tu sais qu'à chaque fois, quand il y a l'émission tout terrain, on fait un tour du monde.
Oui, pareil, oui.
On va partir de... Est-ce que tu connais Benny Fontaine?
Ah oui, ça je connais.
Pourquoi? Il y a quoi?
Il y a une brasserie, je crois.
Voilà, la brasserie du Ch'ti.
Voilà.
Et il y a Dominique Boulonnet qui est responsable du l'UFOLEP.
De la brasserie.
Non. Mais c'est pas loin de chez lui. Hein. Il traverse son jardin. D'accord. Et il y est.
Dominique Boulonnet qui est président de la commission sportive régionale UFOLEP Moto Cross. Tout terrain.
Moto en général. Puisqu'on gère du trial également. Voilà. On gérait il y a quelques années également de la mob vitesse. Donc tout ce qui est moto en UFOLEP.
Très bien.
Alors ensuite, on aura Olivier Mutelet qui a fait le Dakar. L'Enduropal il y a une semaine, 15 jours.
Une semaine.
Qui est juste
à côté de toi, il est dans les studios.
Oui,
hein.
Mais il a fait les deux, c'est-à-dire l'enduro du vendredi vintage et le dimanche. Et il l'a fait déjà 22 fois, hein, l'enduro pâle.
Bah c'est presque depuis le début, alors.
C'était le 45e.
45e, c'était le 45e. 22 fois, 22 participations. Chapeau, quand même.
Et participation aussi au Dakar, hein, en Amérique du Sud. On en parlera. Alors, de l'enduro pâle, on va partir en Russie pour les courses sur glace, parce que les championnats du monde viennent de débuter. Ensuite, avec Gilou, on partira aux USA pour le championnat US. Et puis, un petit tour d'information tout terrain en général.
Très bien. Et oui, alors Gilou, c'est le même motocross. Hein, le site, on peut retrouver toutes les informations. Alors, un site très riche, hein,
une bible
hein, avec les vainqueurs depuis les origines presque du motocross. Hein.
De la préhistoire.
De la préhistoire, presque. Voilà. Et un invité surprise. Et je suis très heureux d'avoir Patrick Messel qui est ici dans les studios. Patrick, bonjour. Il était un peu timide. J'ai jamais fait de la radio. Approche-toi un peu des micros. Voilà. Alors, Patrick, qui a Ardéchois. Patrick, bonjour.
Patrick Ardéchois et qui a vécu une tranche de vie
entre
1983 et 1988 à Lille.
Une époque vraiment particulière.
Dans le cadre de l'ouverture d'un magasin de vêtements et accessoires de moto qui s'appelait à l'époque Daffy Moto. C'est peut-être toujours le cas aujourd'hui.
On va pas raconter l'histoire tout de suite, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez incroyable. Hein, on va en parler durant cette émission. Tu es là-bas en Ardèche et tu veux travailler dans la moto, dans le monde de la moto, et tu vas téléphoner en gros.
Oui,
voilà.
Oui,
mais on va pas en dire trop quand même, on va conserver un peu le suspense pour cette émission. Voilà. Et Guy?
Eh bien écoute, on va passer un petit morceau de musique et puis on va commencer avec Olivier.
Très bien. City, bought to the bone. Roll into that city, try to get it on. Right about midnight, park it in the back. Hit the street laughing, hang with my old friend Jack. Well, of course, our closing time, music's fading out. Thought I'd take a last round.
Around. Only got one life to live.
have my fun. Yes, I am. Oh, yes, I am. Yes, I am. I get it on. Some said I said city, but I drag it down. I walk the street of broken dreams, I'll always be around. Only got one life to live, sure gonna have my fun. Yes, I am. Get it on. Yes, I am. Oh, yes, I am. Yes, I am. I'm bound for Sun City. Don't you want to go? I'm bound for Sun City. Don't you want to go? Cause I like it like that. Cause I like it like that.
Le tout terrain au sommaire de cette émission aujourd'hui avec Guy Pilarczyk et puis Olivier. Olivier qui a participé à l'Enduropal à la 45e édition et qui a terminé 157e. C'est pas mal, Olivier.
Oui, c'est pas mal. C'est ma place. Je tourne autour de cette place.
Ah oui, tu l'as acheté.
Quoi qu'on fasse, bon départ, mauvais départ, c'est, à la fin, on est toujours à peu près à la même position. Tout est quand même beaucoup conditionné par le départ qui est la partie la plus stressante ou celle qui nous permet de ne pas perdre de temps dès le départ ou pas.
Oui, mais 157e, ok. Mais le vendredi, il avait déjà roulé. Hein.
Oui, alors vintage donc, 42e, parce qu'en plus, il y avait du monde. Hein.
Alors oui, cette année, on accepte des motos qui sont construites jusqu'en 96. Donc il y a beaucoup plus de participants. Les gens ont moins peur d'acheter des vieilles motos qui peuvent casser. Donc on peut trouver des motos plus récentes et qui vont permettre d'aller au bout de la course. Et cette année, la deuxième modification, c'est que la course durait une heure d'une seule traite et non pas deux fois 30 minutes. Donc ça a changé.
Tu penses que ce format là, il est
plus
mieux,
sympa, plus oui, sympa. Parce qu'on est quand même sur des courses d'endurance. Théoriquement, on n'est pas sur des manches de motocross. Je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de casses. On avait peur que le fait qu'il faille rouler une heure d'affilée entraîne des chauffes et des choses comme ça, pardon. Et je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de casses.
Alors, après, la réglementation en vintage n'est pas très sévère hein, quand même. On voit des machines avec des moteurs, des fourches transformées.
Ils sont un peu débordés. Ils sont un peu débordés par justement le panel de motos est tellement large maintenant que ça va dans tous les sens. Et puis l'âge des pilotes. Je me demande si à une époque on n'avait pas parlé d'un âge minimum de 40 ans pour réserver les vieux aux vieilles motos. Et là, maintenant, il y a des jeunes qui viennent et les jeunes, ils ne cherchent pas à comprendre. Hein,
Pour
gagner la course, pourquoi pas.
C'est pas pour montrer la moto.
Non, il n'y a plus. Les belles motos, maintenant, sont. À la limite, ce n'est plus le but. Hein. Le but, c'est de faire une belle place. je pense que ça va devenir l'antichambre du Touquet, le vintage. Les gens qui n'ont pas trop la condition ou qui ont peur du départ ou de la foule vont être amenés à d'abord faire le vintage pour se tester. Oui. Et à mon avis, à la fin, il y aura autant de motos que...
Bon, une course
qui est en Europal.
Et tu parlais de cette course, elle a eu lieu une heure au lieu de deux fois une demi-heure. Mais cette année, la course, elle était un peu tronquée avec la marée.
Elle a été courtée de 20 minutes à cause de la marée. Donc ça faisait une manche de 40 minutes, c'était un peu court. Oui.
On aurait gagné quelques places peut-être.
Je pense. Moi je suis un diesel, donc j'attends de voir. J'ai peur au départ.
Tu chauffes.
Hein. Voilà, j'ai peur au départ, et puis après, petit à petit, voilà.
Parce qu'auparavant, je te voyais avec une Kawasaki KX, et maintenant une Honda CR250. Dedans.
Voilà. Alors la Kawasaki, c'est très sympa comme moto, mais il n'y a plus de pièces. Alors depuis que je l'ai revendue, il y a deux mois, elle a cassé deux fois.
Ah, ouais,
le monsieur, il n'y a plus de pièces, il faut refaire les pièces, notamment tout ce qui est boîte de vitesse.
Ah, d'accord.
Donc les Kawas c'est sympa, mais il vaut mieux s'en débarrasser quand même.
La différence entre le vintage, la course du vendredi là, et puis la course du dimanche, il y a par rapport au pilote, il y a une différence, il faut être plus vigilant ou c'est plus décontracté en vintage?
Oui, théoriquement c'est plus décontracté, je pense quand même que sur peut-être les 400 derniers participants, je pense que les gens viennent se faire plaisir, participer. Après, sur le devant, les petits numéros, ça roule quand même. Hein. Ça roule.
Au niveau ravitaillement, c'est
le ravitaillement
même système.
Un ravitaillement obligatoire pour le vintage. Alors, ce qu'il faut, c'est passer dans les stands. Tu n'es pas obligé de t'arrêter. Si tu veux, tu peux te contenter de passer. La puce prend en compte ton passage. Mais sur 40 minutes ou une heure, bon, t'as pas trop à t'arrêter quand même, quoi. Tu remets de l'essence et puis voilà.
Les motos tiennent alors une heure de course pour ces machines. Enfin, après, on n'a pas, on a, c'est des machines quand même. On regarde les moteurs, c'est quand même assez récent. Hein.
Ça reste quand même la loterie.
Ça reste.
Oui. Le vintage, c'est quand même une loterie parce que
au niveau de la mécanique,
oui, beaucoup de temps passé à régler et après, faut pas trop user la moto parce que, ouais, non, c'est quand même. On n'est jamais trop sûr de son coup quand même. Tout peut se passer.
Surtout un moteur de temps, parce que bon, vu comment c'est, la pression de la mer.
Voilà, le problème, c'est l'éternel carburateur. Problème de la carburation avec chacun met son petit grain de sel. Hein, en fonction de la plage, du degré d'humidité, enfin de la pression atmosphérique plutôt, pardon, de la vitesse que tu prends sur la plage, de la quantité de mélange. Est-ce que tu veux une moto qui marche bien à bas régime? Est-ce que tu veux une moto qui marche bien sur la plage?
Faut trouver le juste milieu, voilà. Soit la moto, entre la vitesse,
voilà.
Et puis
soit la moto marche bien à bas régime, ouais. Et tu es avantagé plutôt sur tout le terrain, mais elle prendra pas trop de tours et sur la ligne droite, du coup, tu vas être un petit peu pénalisé. Ou alors tu fais le contraire, voilà. Mais la carburation, ça reste.
C'est mondial quand même.
Le nerf de la guerre.
Qu'est-ce que tu penses de la performance de Petit Sec là qui
là, tu parles du dimanche.
Du dimanche, oui.
Bravo.
Deux minutes, plus de deux minutes. Hein, de...
Ah oui, non, il a très très bien géré. J'ai regardé la course après à la télé. Il a très bien géré parce qu'il s'est placé devant et puis il avait le physique, il est resté propre jusqu'à la fin.
Allez, il n'est pas parti le premier tour, il n'est pas bien parti,
mais il était quand même. Ouais. Il était quand même aux avant-postes hein, et il avait deux trois personnes à contrôler, puis c'est ce qu'il a fait. C'est très bien. Puis je pense qu'il avait envie de le faire parce qu'il était dans une période visiblement de casse.
Tu l'as vu plusieurs fois te doubler sur la.
Non. On voit des gens qui roulent vite, ouais. Mais on lit le numéro à la limite, mais on n'a pas beaucoup le temps de faire ça. Non.
Le départ, c'est toujours quelque chose d'assez impressionnant.
Oui, parce que ça part quand même dans tous les sens.
Il y a deux lignes, hein. Il y a deux
lignes,
départ,
ce qui permet de pas mal minimiser les risques. Mais ça reste, voilà, soit tu te poses pas de questions et tu coupes pas, soit tu te poses des questions et tu passes ton temps à couper au fur et à mesure qu'il y a des gens qui arrivent à droite, à gauche. Et puis la visibilité, le problème...
Tu vois justement, est-ce que tu vois assez loin pour voir éventuellement éviter un pilote qui a une panne et...
Au départ, j'ai
vu un pilote qui était... pratiquement au milieu de la
ouais,
piste,
c'est très dangereux,
et qui faisait signe pour montrer qu'il était là. Parce que...
ça m'est arrivé une seule fois de casser sur la plage, C'est vrai que les minutes sont longues.
C'est long.
Ouais, oui, parce qu'on voit que ça arrive derrière.
Ça arrive derrière, ouais.
Non, on voit 45, 50 mètres, je dirais. Ouais. Le problème, c'est les projections d'eau qui font que tu vois pas grand-chose. Enfin, tu vois, mais il faut vite nettoyer tes lunettes et sans trop utiliser d'écran, parce que sinon, t'en auras plus pour le reste de l'heure qui suit. Quoi.
Et en plus, c'est nettoyer les lunettes, parce que quand t'es en pleine vitesse sur la ligne droite,
tu peux
pas lâcher le guidon.
Non, mais bon, c'est un problème mental. Hein. Soit on coupe pas, et certains se posent aucune question. Hein.
Faut déconnecter.
Ouais.
Alors, Olivier, 22 participations à l'Enviropale, et 3 participations au Dakar.
4.
4.
4, ah, bah, ouais, ouais. Ça augmente. Bah, j'aime bien le tout terrain, c'est aussi simple que
alors
ça.
Le Dakar en Argentine ou...
Uniquement en Amérique du Sud, ah, oui. Oui. Oui, oui. La première année, c'était en Afrique, mais ils nous ont fait venir, c'est l'année où ils nous ont fait venir à Lisbonne et finalement annulé le jour même la course pour des problèmes d'assurance.
De troubles en Afrique aussi.
De troubles en Afrique, mais ouais. Enfin, on est quand même descendu jusqu'à Lisbonne pour les vérifs techniques. Et puis cette année-là, le Dakar a été annulé.
Et c'était remboursé ou les...
Ah oui. Donc Amérique du Sud, magnifique. Un pays, des pays magnifiques. Et puis des gens sympas.
Mais alors là, c'est notre aventure, c'est multiplié par 10.
C'est pas l'heure du repas. On parle plus de vitesse, on parle de gestion jour après jour,
heure après heure,
voilà. C'est du tout terrain, mais c'est pas pareil.
Alors tu pars avec un staff, il y a une équipe derrière toi.
Oui, avec des amis. Hein. Le principe, c'est que c'est quand même une aventure un peu stressante. Hein. Donc partir tout seul, sans copains ou sans personne, c'est difficile. Donc on faisait partie d'une équipe de gens du Nord et on s'est bien marré à l'époque. Là, comme on vieillit, mes copains sont partis cette année en SSV. Ça permet d'avoir moins... Enfin, on peut concourir avec un physique un peu moins affûté, ouais. On va dire. Et c'est un peu plus cher, malheureusement.
Oui, c'est pas le même budget que l'Enduropale, je suppose.
Non, un
Dakar.
Tu parles des...
Les SSV, les budgets en SSV, oui, sont là où on vient sur...
C'est qui a permis, par exemple, à Axel Alétru de finir 7e, quand même.
Axel Alétru avait comment dirais-je...
En Belgique, en plus.
Oui, avait mis sur pied un team, ils étaient 3 ou 4, je crois. 3 ou 4 SSV qui étaient censés l'épauler au cas où... Il a bien roulé.
Oui, parce qu'ils sont derrière lui, hein. Dominique Marquand
et Eric Croquelois étaient donc copilotes dans cette structure. Ils ont bien aimé. Hein. Les paysages sont fantastiques, visiblement. Par contre, l'accueil de la population, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de population, pas de spectateurs et aucune organisation événementielle autour du rallye. Mais les paysages étaient incroyables.
Alors là-bas c'est sur le plateau, ce fameux plateau, le désert, qui est où se situent les grandes antennes pour aller scruter l'univers. C'est à 4000 mètres, il faut pouvoir respirer.
Là tu parles de... tu repars d'Argentine.
Ouais, d'Argentine.
Ouais. Alors je pense que c'est au Chili.
Au Chili,
oui. Ouais, c'est là qu'il y a le moins de pollution lumineuse.
Oui.
Donc il y a des...
Le Dakar passait dans cette région.
Oui. Ah ben, si vous voulez, en Amérique du Sud, on a fait tout ce qui était au sud du Brésil et les paysages sont incroyables, hein. Incroyables, les immensités incroyables.
Et le fait de changer, tu vois, d'Amérique du Sud en Arabie Saoudite, parce qu'en Amérique du Sud, le Chili, l'Argentine, tout ça, il y a quand même des problèmes pas financiers, mais bon, on a bien vu à la télé, ça se bat dans les rues, etc. Donc c'est un peu pour ça que Amaury a parti...
Non, je pense que c'est fondé sur le même principe que le Tour de France, c'est-à-dire que les villes, les étapes ou les pays accueillent le Dakar en fournissant un budget. Et en Amérique du Sud, ils n'avaient plus envie de... D'abord, ils n'avaient peut-être plus les moyens. Et puis ensuite, une fois que la promotion des pays
ou des
constructeurs automobiles est faite, hein, Volkswagen s'est investi à une époque parce qu'en Argentine, on vend beaucoup de Volkswagen ou de Peugeot. Peugeot a fait la même chose parce que c'est des marchés très importants. Une fois que les pays n'ont plus d'intérêt à accueillir le Dakar, il faut que Il faut que ASO se délocalise et trouve
l'Arabie Saoudite.
L'Arabie Saoudite, je pense qu'elle est dans une dynamique de.
Et là, il paye en baril de pétrole, alors
Je sais pas comment ils payent, mais je présume que voilà, ils sont sur un filon et ça va bien marcher, parce que ces pays-là qui ont une réputation qui n'est pas encore très.
Alors apparemment, c'est pas tout à fait. C'est du sable, hein, vraiment. L'Arabie Saoudite, c'est pas tout à fait le même terrain.
Ah non, non. Alors l'avantage de l'Arabie Saoudite, visiblement, pour le participant en tout cas, c'est qu'il n'y a pas d'intempéries de pluie. Hein, parce que l'Amérique du Sud, c'est sympa, mais quand il pleut, il pleut. Et ça transforme tout. Le problème de l'Arabie Saoudite cette année, visiblement, c'était le froid. Le froid terrible. Le matin, la nuit, et le matin et le soir, incroyable.
Ok, ben Olivier, on te remercie de nous faire rêver. Hein, et alors, est-ce que tu repars à Dakar quand même
Alors là, je pars sur. Je vais aller dans la région de.
Patrick.
De Patrick.
En Ardèche.
Au printemps, je fais les enduros, les classiques, c'est-à-dire des courses au. Vraiment,
t'es un mordu, toi.
Au fin fond de la France, la Lozère, magnifique. La Haute-Loire. On commence par la Val de Lorraine. La Val de Lorraine, c'est sympa, il pleut tout le temps. Donc c'est toujours la catastrophe.
Et tu voulais aussi rouler au ISDT à Brioude
Oui.
Début
septembre, sur le mode vintage, il y a donc des courses d'enduro qui sont. Mais oui, les places, visiblement, sont chères.
Ok. Merci, Olivier.
Bah, écoutez, merci.
À l'année prochaine,
Nous c'était il y a 10 ans.
Dans 10 ans, alors. Rendez-vous dans 10 ans.
Tu peux aller voir ta belle-mère.
dans l'ambiance. Voilà, allez, une émission spéciale tout terrain aujourd'hui avec Guy Pilarzic et aussi Dominique Boulonnais, président de la commission sportive régionale UFOLAP Moto.
Avant que Dominique parle, je voulais aussi saluer tous les tout-terraineux pour leur fêter notre bonne année. Parce que au mois de janvier, vu que le calendrier a sorti à la même date que mon émission, j'ai pas pu m'exprimer à ce niveau. Voilà. Dominique Boulonnais. Alors tu nous présentes ton calendrier UFOLEP, hein. Je précise, hein, pour pas se tromper ni mélanger. Le calendrier commence par le trial cette année, comme souvent d'ailleurs.
Voilà, comme souvent en UFOLEP, c'est le club de Vingles qui ouvre les hostilités avec un trial vintage, hein, puisque depuis une quinzaine d'années maintenant, le trial est exclusivement, tout au moins pour le championnat, réservé au vintage. Et puis on accueille également des motos plus modernes, mais qui sont hors classement, bien sûr, parce que c'est pas du tout le même tracé, la même technique, et puis la qualité d'évolution des machines.
D'accord.
Donc on propose cette année, on parlait tout à l'heure en aparté, je gère l'activité moto. Alors au jour d'aujourd'hui, en moto, en UFOLEP, dans notre région, c'est le motocross à 99%, ce trial-là. On gérait également, il y a quelques années, l'activité mob vitesse, hein, des mobilettes de 50 cm3 qui roulaient soit sur des pistes de karting ou encore avant sur des grandes surfaces, des parkings de grandes surfaces, mais ça a été interdit.
Et cette année, il n'y a pas de course mobilette.
Non, je pense que c'est la deuxième saison, faute de combattants et puis surtout faute de finances pour pouvoir organiser tout ça, parce que les prix d'assurance en particulier ont grimpé en flèche en quelques années et c'est plus possible.
Parce que j'avais vu ça sur le circuit de Douvrin. Il y avait quand même du monde, hein, plusieurs, beaucoup de catégories.
Oui, la piste de karting a accueilli chaque année 2 voire 3 épreuves. Donc ils louaient la piste auprès de l'association de karting pour pouvoir organiser. Puis ils organisaient également dans la Somme, en Normandie. Il s'est allé un petit peu à d'autres départements.
D'accord. Dans le calendrier, par exemple, tu marques, il est inscrit aussi avec école de conduite, ça veut dire.
Donc l'école de conduite, c'est notre organisme de formation UFOLEP pour les jeunes pilotes.
Ah, d'accord.
Donc la réglementation dit qu'en compétition, on ne peut pas rouler avant 12 ans révolus, hein, en 85 cm3. Donc pour amener les enfants au sport motocycliste, eh bien, on les encadre en école de conduite UFOLEP. On l'appelle ECU, donc école de conduite UFOLEP. Il y a des animateurs dans la majorité des clubs, hein, qui se sont formés, sont brevetés au niveau national, brevetés fédéraux. Ils organisent des stages dans leur club. Nous, à longueur de saison, on fait des stages régionaux, c'est-à-dire on accueille les jeunes de tous les clubs sur différents circuits de façon à pouvoir découvrir un coup plutôt de la terre, un coup plutôt de l'argile, un coup plutôt du bûchiste, il y en a moins maintenant, mais de la craie, par exemple.
En Vingles, c'est du schiste.
Non, à Vingles, c'est pas... À part la ligne de départ, ouais, qui est encore à schiste, tout le reste, c'est de... Non, c'est du limon, c'est de la terre à porter. Hein. Ben on garde une arrière-pensée des mines quand même. Hein, on est en plein dans le bassin minier. Donc, mais au départ, c'était le circuit de Vingles, c'était une friche industrielle des houillères et qui a servi à construire la Française de mécanique. Et il y a eu des terres, les terres ont été rapportées et le schiste a été enlevé pour faire les soubassements de l'usine, quoi, en réalité.
Ah d'accord.
Voilà.
Pour revenir à l'école de conduite, mais cette école se fait le jour même que le motocross ou...
Alors, il y a deux formules en réalité. Tous les clubs, je l'avais noté, je pense qu'il y a 13, ce qu'on appelle des démonstrations. Donc ça, les enfants, une fois qu'ils ont appris à rouler, enfin tout au moins qu'ils ont appris à rouler, ils savent rouler, ne serait-ce qu'avec leurs parents qui sont souvent des motards, mais une fois qu'ils savent rouler, on leur délivre une carte test de pilotage, on va dire un petit permis de conduire pour les enfants, parce qu'il faut savoir quand même connaître les drapeaux, connaître, savoir relever sa moto tout seul, savoir la redémarrer tout seul, hein, quand on a 6, 7, 8 ans, c'est pas toujours évident. Donc tout ça est vérifié, on leur délivre une carte test de pilotage, et ensuite ils peuvent participer aux démonstrations lors des motocross officielles. Ils partent par vague, il n'y a pas de classement, ils reçoivent tous un souvenir identique, une coupe, une médaille ou choses comme ça. Mais ça leur permet de rouler devant les spectateurs et encadrer, bien sûr, puisqu'on exige à chaque fois qu'il y ait au moins un, voire deux animateurs pour les encadrer lors des démonstrations.
D'accord. Une question, comment va le Volep Nord-Pas-de-Calais ?
Bah, écoute, d'abord, elle est Nord-Pas-de-Calais-Picardie maintenant.
Hauts-de-France.
Elle est Hauts-de-France, voilà. Voilà. Mais l'UFOLEP a gardé le titre de Nord de Flandre-Artois-Picardie, puisque le comité régional s'appelle ouais. Comité régional Flandre-Artois-Picardie, ce qui veut dire Hauts-de-France, quoi, hein, en traduction. Ben, elle se porte bien, puisque j'ai été à une assemblée générale récemment. Les effectifs sont en hausse, pas beaucoup, mais on avait perdu beaucoup d'adhérents. En 2013, pour des questions de coûts d'assurance. Donc, ça va mieux puisque ça augmente. On se maintient au niveau des manifestations et puis on a des contacts avec de nouveaux clubs, hein, puisqu'en 2015, par exemple, on ira à Ligny en Cambrésie, entre Cambrai et Le Cateau. On ira à Haybes sur le circuit tracé par Jean-Jacques Bruno, hein, qui est un club qui, depuis très longtemps, est affilié à l'UFOLEP, mais qui n'avait jamais franchi le pas d'organiser. Et là, les dirigeants ont changé là, depuis 2 ans. Donc, ils ont souhaité organiser une manifestation. Ça sera début juillet. Et puis, on retrouve la douzaine de dates habituelles à Arleux, à Fontaine-les-Croisilles. Ils ont des clubs qui sont depuis longtemps en UFOLEP.
Dont Isberg, qui fait quand même un inter en nocturne.
Voilà, Isberg, donc dans les points particuliers, Isberg organise une épreuve régionale qui a lieu le premier dimanche de juin. Et puis, ils ont également la traditionnelle édition. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on en est à la 32e ou la 33e édition du motocross international nocturne qui a lieu le dimanche 22 août, je crois, hein, en soirée, donc
c'est ça, oui.
Après-midi et soirée. Et ben, ça, c'est une épreuve, on va dire, mythique pour l'UFOLEP, hein, dans notre région, puisque depuis plus de 30 ans, le club accueille 5 ou 6 pays étrangers lors de ses manifestations. Et puis, c'est au niveau public, c'est un beau spectacle, il y a un feu d'artifice, enfin, c'est une grosse manifestation.
D'accord. Donc, le calendrier... va aussi en Picardie, mais un peu moins quand même.
Voilà, donc il y a eu un petit peu l'hémorragie, un petit peu de clubs et de licenciés dans les années, la saison 2012-2013, quand il y a eu, je m'en suis déjà expliqué ici, une augmentation terrible des coûts d'assurance. Donc les clubs ont quitté l'UFOLEP et sont partis en Fédération française pour tous, d'autres ont arrêté, mais ça revient, hein. Donc on a deux organisations dans la Somme, l'une à Flixecours et l'autre à Blangy-sous-Bois, qui auront lieu le premier et le deuxième dimanche du mois de mai.
D'accord.
Voilà. Et puis on est en pourparlers également avec d'autres clubs de la Somme, de Picardie, qui vont peut-être revenir organiser dans notre championnat.
D'accord. Et Dominique, on va te reprendre après. On va reparler de Vingle pour le trial et puis du site Carcross qui fait étape à Vingle.
Exact.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. And I can see through this or see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. The blame on me.
Are you seeing clearer or are you deceived in what you believe?
I'm only human after all. You're only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me.
Opinion, don't ask me to lie. Then beg for forgiveness for making you cry. Making you cry.
I'm only human after all. You're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Voilà, au téléphone, nous avons Patrick Stadler, qui est président de la Ligue des Hauts-de-France FFM. Alors, on a la chance parce qu'on a donc Dominique Boulonnais, président donc, du FULEP. Et là, on est le président de la FFM et Hauts-de-France.
Et tous deux contribuent à la... au motocross.
Au dynamisme du motocross et du tout-terrain dans la région.
Et de la moto en général.
En général, oui.
Patrick, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Voilà. Nous avons... vient de sortir le calendrier de la Ligue des Hauts-de-France. Il est assez conséquent cette année encore.
Et oui, cette année, nous avons la chance. Nous avons un très beau calendrier. Donc, et pas que dans le motocross, d'ailleurs, hein, avec les championnats de France de vitesse, du trial, de l'enduro et de l'endurance tout-terrain.
Oui, donc, justement, du trial, avec un championnat du monde, en plus, à Liévin.
Oui, c'est ça, un championnat du monde de X-trial, comme on appelle, donc du trial en salle.
Donc, d'accord.
Voilà, c'est...
Oui, ouais, c'est assez spectaculaire, hein, parce que, bon... c'est des acrobates, d'ailleurs. C'est même pas des sportifs, oui. À ce niveau-là. Quoi.
Ah, ce sont des acrobates, mais avant tout des sportifs, puisque certains des pilotes participent au championnat du monde de trial, je dirais,
exactement,
outdoor. Ouais. Quoi.
Hein. Exactement.
Donc
oui.
Voilà, ouais, belle discipline le trial.
Donc du trial et de la vitesse aussi maintenant.
Oui, absolument. Avec championnat de France Promo Sport, WMA, donc moto ancienne, hein, tout ça à Croix-en-Ternois. Donc voilà, on est content, la vitesse fonctionne bien, c'est en plein développement. Donc il y a du motard dans les Hauts-de-France, donc tant mieux.
Et j'ai vu aussi, il y a même un championnat de France de sidecar cross à Blargy.
Voilà, donc bah oui, les Hauts-de-France, nous allons avoir en 2020 7 ou 8 championnats de France, donc en tout terrain. Donc c'est non négligeable, oui, championnat de France de sidecar à Blargy, mais également le championnat de France mini-vert, qui est important pour nos jeunes à Plainville, un championnat de France vétéran, un championnat de France féminin à Plomion. Donc ah ce oui, qui fait que... Ah oui, 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 là franchement, nous avons un très beau calendrier pour 2020.
Oui, diversifié à outrance presque.
Voilà, oui, oui, bah oui, bien sûr, notre but, effectivement, le motocross, les courses sur sable sont 80%, représentent 80% de l'activité. Maintenant, il y a d'autres disciplines et il y a de quoi faire dans les autres disciplines également.
L'an dernier, le championnat des Hauts-de-France, il était partagé entre Picardie et Flandre, mais cette année, tout le monde roule à la même enseigne, à la même date.
Voilà, c'est-à-dire que effectivement l'année dernière nous étions en cours de fusion. C'est pas toujours très évident de ne faire qu'un championnat. Donc nous avions fait des championnats de zone, une zone nord, une zone sud. Et donc là pour finaliser, je dirais la fusion, nous faisons un championnat unique, c'est-à-dire que tout le monde participe au même championnat, ce qui permet d'augmenter, je dirais dans les catégories promotion, le nombre de pilotes. Hein, puisque l'année dernière, ils étaient limités à 40 sur la zone nord. Là, aujourd'hui, on va pouvoir avoir des épreuves avec 150, 160 pilotes de promotion. Et ce qui est bien pour les pilotes, c'est qu'ils ont plus de courses.
D'accord. Voilà. J'ai vu qu'aussi, il y a pas mal de courses d'endurance maintenant dans la Ligue. Je vois le premier, c'est à Grillon. L'endurance moto tout terrain. Mois de mars, voilà. C'est quand même assez tôt parce que bon, faut voir un peu l'état des pistes au mois de mars, non?
Alors l'avantage de l'endurance, c'est que les pilotes aiment bien en début de saison, ça leur permet de s'essayer, voir où ils en sont un peu sur le plan sportif, puisque une endurance c'est un peu plus physique. Et avant le motocross, les pilotes aiment bien. Et généralement, il y a beaucoup d'épreuves en début de saison. Et on commence souvent par l'endurance. Hein. C'est pas une nouveauté dans la partie Picardie, c'est ce qui se faisait auparavant. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Alors effectivement, les conditions sont parfois difficiles, mais voilà, là, le temps, on ne peut rien y faire.
D'accord. Tiens, je profite un peu, parce que vous êtes aussi membre de la commission Cross à la FIM.
Oui.
Bon, il y a un peu l'histoire du sidecar cross avec l'arrivée d'un promoteur. Est-ce que, par exemple, Plomion, qui voudrait organiser, je crois, pour le 40e ou 50e anniversaire, est-ce que ça pourrait pas causer quelques problèmes, c'est-à-dire d'augmentation du prix d'entrée? Parce que, bon, le sidecar cross est quand même un sport, comment dire...
Populaire,
hein, et puis de niche, hein, parce que, bon... voilà, alors est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que toujours le promoteur promet toujours parce qu'il prend beaucoup d'argent au club. Et est-ce que ça va pas faire, pas disparaître des clubs? Enfin, bon, en France peut-être, je ne sais pas.
Alors oui, l'arrivée d'un promoteur n'est jamais simple. Sur un championnat qui était facile. Non, c'est pas facile à organiser, mais c'était le championnat l'un des championnats du monde le plus accessible pour les clubs.
Ah ouais,
aujourd'hui,
ouais.
Aujourd'hui, l'arrivée du promoteur fait que ça va augmenter d'autant le coût d'organisation. Puisque bon, ce promoteur ne vient pas que pour prendre de l'argent, hein, il vient aussi pour essayer de promouvoir cette discipline qui est le sidecar cross. Maintenant, nos clubs français, effectivement, pour le moment, ne sont pas favorables à l'avenue du promoteur, notamment en fonction de la somme d'argent demandée. Il faut savoir que 2019, il y avait 16 épreuves se sont faites. Cette année, à hier, il n'y a que 11 épreuves, dont 3 ne sont pas sûres, ne sont pas confirmées. Mmh. Donc, vous voyez que l'avenue du promoteur, maintenant la Fédération française réunit les clubs, je crois, la semaine prochaine, clubs français, et justement pour les aider et les défendre. Mais quoi qu'il en soit, oui, ça coûtera un peu plus d'argent. Et je confirme bien que Plomion était sur les rangs pour 2021, pour son 50e anniversaire.
Oui, et puis si je prends l'exemple de Plomion, il suffit par exemple le temps, une averse, il y a moins de monde. Bon, il faut payer pour un championnat du monde, quoi. Il y a quand même des risques. Parce que les prix d'entrée, c'est pas cher à Plomion. Hein, ça tourne entre 20 euros, je crois. Hein.
Ouais, oui, c'est ça. Oui, parce que bon, je pense que nous ne sommes pas, c'est pas une grande ville. Et puis, il faut que ce soit accessible à tout le monde, que les gens puissent au moins le plaisir de venir voir du sport mécanique. Maintenant, l'avenue du promoteur, je ne pense pas que ça augmentera les billets d'entrée. Mais voilà, il va falloir faire plus de monde pour rentabiliser. Et on sait que la météo à Plomion n'ont pas eu de chance pendant des années. Voilà, l'année dernière, ça s'est super bien passé. Ils ont eu du beau temps, ils ont eu du monde, mais effectivement, s'il pleut en 2021, ça peut devenir très compliqué.
Oui, en effet, oui. Bon, ben, Patrick, on te remercie d'avoir donné assez rapidement ton point de vue sur le calendrier de la Ligue des Hauts-de-France et puis ton point de vue sur ce championnat de Sidecar Cross. J'espère que tu as bien reçu les calendriers de Kikaku.
Ah oui, très bien. Très bien. Là-dessus, ça fonctionne super bien. Et voilà, il y a une bonne diffusion. D'ailleurs, nous avons fait une publicité cette année dans le calendrier parce que c'est vraiment bien diffusé, c'est efficace.
En effet. Hein, et puis, bon, le calendrier, ici dans le Nord-Pas-de-Calais, a été distribué partout. Patrick, on te remercie en te souhaitant à une prochaine fois sur les ondes.
Eh bien, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite un bon dimanche également.
Ok, merci. Au revoir. But now
Guy, je te propose de sortir un petit peu de l'info tout terrain, parce qu'aujourd'hui, on a un invité, que moi, je vais dire, exceptionnel, que, voilà, qu'on connaît tous ici, à Kikankout et Tupal, qu'on a connu depuis... alors, 80, ça fait 40 ans voilà. Et,
mais, oui. Mais ce magasin vend aussi des produits tout terrain.
Oui, oui, ils vendent aussi des produits, donc ouais. Effectivement, ça colle un peu au sujet, quand même. Voilà. Donc, c'est, on a Patrick Messel, qui est ardéchois, hein, parce que, bon, encore fidèle, hein, on dit ça, ardéchois, cœur fidèle. Patrick, je voudrais que là tu es remonté ici dans le nord, dans la région, pour saluer plein d'amis hein, que tu as ici. Mais j'aimerais que tu nous racontes ton histoire. Enfin, ça se passe début 82, enfin en 82, et tu vas donc, tu nous as dit ça, hein, tu vas au magasin Daffy à Lyon. Un petit bouclard, hein, c'était des petits bouclards avant.
Ouais, voilà. En 1982, je rame dans un cabinet d'expertise comptable et je suis.
Et tu te fais chier royalement.
Je suis motard et je fréquente le magasin Daffy Moto de Lyon. Bon, la formule me plaît et le gérant en question me dit mais si ça t'intéresse, il se développe, il cherche des mecs un peu qui ont ton profil et va les voir. Donc je vais à Clermont-Ferrand sans rendez-vous pendant mes vacances d'été et je rencontre le PDG qui est là.
C'est le siège social
de la Fimoto. Ouais. Et il me reçoit dans le magasin entre deux rayons de casque. On s'entretient un quart d'heure et il prend mes coordonnées et puis on se quitte un peu comme ça, quoi. Et moi, je rentre chez moi à Lyon et six mois après, je reçois une lettre manuscrite du PDG qui m'a reçu et qui me dit « Vous êtes bien la personne que j'ai rencontrée dans mon magasin. » Et il me dit « Voilà, on a un projet d'ouverture imminent pour le printemps prochain. » Et est-ce que vous êtes toujours partant? Ben, j'ai dit ben, plus que jamais. Et là, il m'invite chez lui, à son domicile à Clermont-Ferrand. On a un entretien d'une demi-journée, quoi. Il me reçoit même à sa table. Et puis on se quitte comme ça. Et il me dit voilà, ben, je ne peux encore pas vous dire où je vais ouvrir, mais je vous préviens, ça ne sera pas en Provence. Il dit parce qu'en Provence, les motards, ils ne mettent ni un casque, ni une combine de pluie, ni rien. Donc nous, c'est tout ce qu'on vend. Donc je vous mets à l'aise, ça ne sera pas en Provence. J'ai dit mais moi, peu m'importe, c'est le job qui m'intéresse. Donc que ce soit à Strasbourg, à Brest ou à Dunkerque, ça m'est égal. Et peu de temps après, il m'a dit, ça y est, on a loué des locaux sur Lille, donc ça sera à Lille. Et voilà, donc Lille, l'aventure commence en mars 83, comme ça, voilà.
Alors Lille, l'Ardèche, le soleil,
ouais, les cigales. La seule image que j'avais de Lille à l'époque, c'était une petite photo qui était dans mon dictionnaire Larousse, où on voyait la cité hospitalière qui était mise en exergue.
Ah oui, oui.
Et c'est tout ce qu'il y avait sur le dictionnaire Larousse sur Lille.
Le film Bienvenue chez les Ch'tis n'est pas encore sorti.
Ouais, mais c'est un peu ça, quoi.
Voilà. Et donc, tu vas arriver ici, donc sur la région, et tu vas ouvrir
petite boutique qui fait 50 mètres carrés, rue nationale.
Une petite boutique, hein, qui...
Ouais, 50 mètres carrés.
Rue nationale, ouais.
Voilà, et puis l'histoire s'enclenche assez vite, en fait. Apparemment, l'accessoire manquait un petit peu dans les magasins de moto traditionnels.
Alors, on revient un petit peu à l'époque, l'accessoire c'était chez les concessionnaires.
Ouais, c'était chez les concessionnaires.
Hein, ça n'existait pas.
Il y avait une forme de rareté, quoi, sur les vêtements essentiellement, les vêtements de cuir, etc. Puis c'était surtout aussi assez cher. Et Daffy avait une politique de prix avec des produits importés. Pour beaucoup du Pakistan
et
après de Corée. Donc voilà, ils se sont assez vite positionnés sur ce créneau économique là. Et puis l'histoire, ça a démarré petit à petit, quoi. Bon, moi après, je suis parti sous d'autres cieux.
Donc là, tu vas rester combien? 5 ans hein.
Oui, je reste 5 ans, sur 5 Lille. Ans à Lille, le temps de faire une petite fille.
Avec ce... Oui, en plus, oui.
Et puis,
entre parenthèses, voilà. La petite fille. Ouais.
Et de repartir en Provence dans une autre activité, sans jamais quitter la moto à titre personnel, bien sûr. Et voilà, quoi.
Et donc cette activité, ça va te permettre de rencontrer plein de personnes ici dans la région. C'est pour ça que tu remontes régulièrement, voilà, dire bonjour aux gars du Nord.
Exactement. Donc depuis 1988 que j'ai quitté Lille, ben, je reviens régulièrement et je revois toujours les vieilles badernes, là, comme la Miche, qui lui aussi me rend visite en Ardèche parfois.
Parfois, oui.
Et donc voilà, quoi, c'est toujours un très bon moment quand je viens ici, où j'ai conservé finalement beaucoup d'amis, malgré le bref laps de temps où je suis resté.
Il dit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu t'es baladé un peu? Est-ce que tu penses de ces grandes surfaces d'accessoires?
Je continue.
Il faudrait se balader avec un
caddie supermarché.
Un caddie supermarché, hein, ouais. Presque.
Ouais, et oui, j'ai même été J'ai revu le magasin des filles moto à Seclin et j'ai été surpris qu'il y avait même une rangée de caisses pour sortir.
Oui.
Voilà quoi, je me suis
tu
dit. C'est
tu
vrai
pouvais imaginer, toi, en 82, que. Ton petit bouclard allait devenir une espèce de grosse espèce surface, comme ça.
Parce que plusieurs milliers de mètres carrés, avec un choix tellement immense qu'on ne peut même pas choisir. Tellement il y a d'articles.
Il y en a trop, mais effectivement, il y a trop de choses, on a du mal à faire son choix.
Et bon, maintenant, voilà quoi, c'est. Peut-être une évolution de notre monde. Voilà.
Mais à l'époque, il n'y avait pas un concurrent Place des Halles.
Si, il y avait un concurrent allemand s'appelait Heinrich. Qui a disparu. Alors, c'est vrai que je n'avais pas vraiment de contact avec ce magasin, avec le responsable de ce magasin. Mais c'est vrai qu'il existait. Quoi. C'était
à la même époque. Hein.
Oui, c'était à peu près à la même époque. Ouais.
Alors,
oui,
après toi, il y a eu l'évolution. Hein. Le magasin a déménagé.
Plusieurs fois. Face, rue Nationale, où il a doublé ou triplé sa surface. Oui. Et ça, c'était mon successeur, c'était Benoît. Voilà. Et qui, lui, est resté beaucoup plus longtemps que moi, puisqu'il est resté 20 ans chez Dafimoto et où il s'est fait remercier un peu sèchement d'ailleurs.
Sèchement, oui. Oui, parce que les contrats, vous avez des contrats un peu bien
à l'époque où j'étais recruté, compte tenu de la modicité du chiffre d'affaires, on avait un commissionnement relativement important pour avoir un salaire à peu près décent. Mais vu l'explosion des chiffres d'affaires, Benoît, il avait un salaire qui était supérieur à celui de son PDG. Et
ça va pas.
Vraiment, il ne supportait plus.
C'est pas bon. D'accord. Et après, ça va partir à l'homme.
Voilà, après à l'homme, où la surface a encore multiplié par deux ou par trois. Voilà. Et puis après, à Ronchin, et puis, et puis voilà.
Voilà, et Ronchin, oui. Et après, Seclin, voilà. Bah, écoute, Patrick, on te remercie. Tu restes avec nous, là ? Parce qu'on va avoir Dominique, on reparle encore UFOLEP. Hein.
Oui, je peux. Ouais.
T'as du temps ?
Oui, je peux.
C'est demain que tu redescends en Ardèche ?
Ah oui, voilà, demain matin, je quitte le Nord et... Très bien. Pour d'autres activités.
Qu'est-ce qu'il y a de bien en Ardèche si on devait donner des idées de balade au moteur du Nord ?
En Ardèche, c'est aussi bien...
Le pont d'Arc, le vallon de pont d'Arc ?
Oui, voilà, pour faire de la moto sur la route que faire du tout-terrain, parce qu'on a encore de grands espaces où on peut se promener avec une moto tout-terrain. Les chemins sont illimités, les espaces superbes, le climat clément. puis après d'autres activités, la rivière,
Ardèche du Nord,
la spéléologie,
Ardèche du Sud,
voilà, Ardèche des montagnes, Ardèche des plaines, Ardèche de la vallée.
Bon, il y a quoi faire, quoi.
Voilà, puis alors sans oublier la gastronomie, le vin, le fromage de chèvre, le saucisson, voilà.
Bon bah écoute, tu nous as mis la bouche là, voilà, très bien, merci Patrick. Et puis bah écoute, on essaiera d'aller faire un tour là-bas en Ardèche, hein. Voir un peu ce qui s'y fait.
Voilà, on m'a suggéré de préparer l'organisation d'une hivernale en Ardèche.
Ah oui, une hivernale, ce serait bien ça. Et je pense qu'il va y avoir du monde, beaucoup de ch'tis, voilà, merci Patrick. Don't hurt you where it hurts the most, yeah. avec Dominique Boulonnais, président de la commission sportive régionale UFOLEP.
Oui, avec deux épreuves assez intéressantes. C'est le trial à l'ancienne. Comment le trial a pu arriver dans le Pas-de-Calais? Parce que souvent, le trial se déroule dans des régions accidentées, quoi. Hein.
Oui, disons que c'est une vieille tradition, puisque l'UFOLEP moto dans le Nord-Pas-de-Calais a commencé à la fin des années 70. Nous, à Vingles, il y a tout de suite eu une section trial dans le club. Alors, on arrivait encore dans les schistes à trouver des zones naturelles, mais maintenant c'est plutôt des zones qui sont tracées où toute l'équipe de trialistes du club ramène des pierres. Et puis voilà, comme on est dans le schiste, déjà ça sèche beaucoup plus rapidement et puis on arrive à le creuser très facilement. Donc ils inventent des obstacles. Tous les 2-3 ans, on remet le terrain un petit peu je ne vais pas dire en état, mais on le modifie pour que les zones soient changées lors des compétitions.
Parce que je me rappelle, il y a quelques années, il y avait des zones hors circuit.
Oui, au début, donc, le premier trial sur Vingles date de 1981, hein, pratiquement la création du club. Et là, on avait un interzone d'une douzaine de kilomètres où on pouvait aller dans toute la base de loisirs. Et on allait également de l'autre côté, on suivait une voie ferrée des houillères. C'est-à-dire on s'éloignait à vol d'oiseau de 5 km à droite et 5 km à gauche du terrain. Quoi.
Ah, d'accord.
Qu'on ne fait plus depuis le milieu des années 2000 parce qu'on n'a plus les autorisations de sortir comme ça. C'était quand même un traçage très important et puis des règles de sécurité. Surtout qu'à certains moments, on traversait des routes. Donc c'était plus possible au vu des autorités, quoi. On n'a pas eu les autorisations pour continuer, quoi.
Il y avait peut-être pas assez d'appui.
Oui,
des appuis politiques à ce niveau-là.
Oui, peut-être des appuis politiques, mais bon, même je pense qu'au sein du club, même si au départ on a été un peu déçus que ça change, bon, maintenant on arrive à tracer un interzone de 3-4 km à l'intérieur du circuit. On les fait prendre le circuit de moto, tout ça, des boucles. Et puis pour les trialistes eux-mêmes, parce que partir 12 km, faire 3 tours, il ne fallait pas avoir un petit souci en plein milieu. On commençait à 9h le matin, et puis des fois à 18-19h, on était encore sur le circuit. Maintenant, tout ça a changé. Bon, on commence à 9h30 et les gens aiment bien, comme ils viennent de toute la France en plus, à 17h, ils aiment bien que ce soit terminé pour pouvoir remballer les motos. Quoi.
Tu vois, dans la région, il y avait aussi le trial de Cassel, enfin, dans les époques 70-80. Et il y avait même les crossman qui faisaient le trial, mais avec des motos de cross. Enfin, ce n'était pas adapté, quoi.
D'accord.
Mais il y avait les championnats de France.
D'accord. Il y a eu très longtemps également à Courrières, un club qui existe toujours d'ailleurs, le club de Courrières. Mais lui, qui n'a organisé qu'en moto moderne. Donc, en réalité, il n'y a pas eu une relève vraiment en moto moderne. Et donc, les gens ont vieilli, ils ont gardé leurs machines, ce qui fait que maintenant, ils sont passés en moto ancienne. Et il y a un championnat national géré par une association qui s'appelle l'AFATA, Association française des amateurs de trial à l'ancienne, et qui gère un championnat sur toute la France. Et ils organisent même des genres de concentration à l'étranger, surtout en Angleterre, parce que le vintage est très, très développé en Angleterre.
Et en Belgique aussi.
Et en Belgique, oui.
Oui, c'est un pays qui, surtout le trial de Mons, est très connu.
Oui, après ils allaient à Bilstein aussi également.
Ah ouais, d'accord. Le motoclub de Vingles va fêter son anniversaire ou...
40 ans.
40 ans déjà.
40 ans, voilà. Première déclaration au journal officiel le 29 février 1980. Donc tu vois, on va arriver bientôt.
T'étais en culotte courte encore.
C'est ton club fétiche.
Tu connais pas mon âge.
T'es jeune.
Tu me dois le respect. Alors, c'est Dominique. Mon club fétiche parce que j'en ai été le président pratiquement 20 ans, de 91 à 2009. Et puis, c'est un club qui a toujours su évoluer dans le bon sens des choses, quoi. Donc, 40 ans, oui, ça fait un bail quand même. Donc là, on a deux gros rendez-vous. Alors, le trial en l'ancienne, c'est le 29 mars. Et on pense que, comme les gens arrivent souvent la veille ou l'avant-veille, on fera le samedi après-midi déjà ça sera un entraînement, on va dire, officiel, mais il comptera pas pour la compétition, sur d'autres zones, bien sûr. Hein, on ne va pas leur dévoiler les zones du dimanche, quoi. Mais les gens qui sont présents pourront déjà un petit peu trialiser le samedi après-midi.
À l'occasion de ce...
À l'occasion de ce trial, voilà.
Hein, de cet anniversaire.
De cet anniversaire, voilà. D'accord. Ensuite, on a prévu également une opération porte ouverte qui aura lieu le 21 mai. Où on fera découvrir le club au grand public, on va dire, avec des baptêmes en quad, en sidecar peut-être. Enfin, on est encore en train de réfléchir. Et puis le gros point d'orgue, ce sera fin août, donc le dimanche 30, avec un double championnat d'Europe IMBA. Hein, IMBA, donc, qui est une fédération amateur de motocross qui regroupe 10 pays amateurs. Et pour la première fois, donc, il y aura les féminines. Hein, c'est la première fois qu'ils viennent en France, ce championnat d'Europe féminin, puisqu'il a vu le jour en 2015-2016. Et puis pour la deuxième fois pour le club également, l'accueil du championnat d'Europe de sidecar cross, hein, dans catégorie IMBA.
Il a déjà eu lieu il y a quelques années d'ailleurs.
En 2017.
Et puis, est-ce que le public a adhéré au sidecar cross ?
D'abord, je pense que notre public habituel a été surpris déjà de voir des sides sautent les tremplins pratiquement comme des motos, comme des deux roues. Et ouais, ils ont été très surpris parce que là où on a notre esplanade de spectateurs, on a une table d'une trentaine de mètres qu'ils ont manché d'un seul bond. Puis derrière, on a une série de vagues. Où là également, ils passaient ça.
Pas comme
une petite bière du ch'ti, mais.
Ni comme une lettre à la poste.
Voilà, mais, ni comme une lettre à la poste, mais bon. Enfin, c'était impressionnant. Et puis de voir le passager, hein, le fameux singe.
Le travail qu'il fait.
Ah ouais, non, mais c'est terrible. On ne s'imagine pas que ces gars-là se déhanchent comme ça. Quoi.
Il faut avoir du muscle. Hein,
il faut du muscle. Je pense qu'il faut du cœur aussi. On parlait tout à l'heure, hein, l'enduro, qu'il faut au départ, il faut un peu peut-être fermer les yeux. Mais je pense qu'en side, le singe, il faut qu'il ait le cœur bien accroché, hein, qu'il ait peur de rien. Parce que des fois, le postérieur est à 3 cm du sol. Il ne faut pas prendre une pierre. Hein.
Puis aussi avec les autres attelages, ils peuvent se toucher facilement.
Exactement. Alors on a eu beaucoup de chutes en 2017 au départ. Et bon, le délégué de l'IMBA qui était là, parce qu'à chaque fois il y a un délégué international qui est présent, moi je lui ai posé la question parce que je dis, est-ce que c'est la configuration de notre circuit qui fait qu'il y a des problèmes au départ? Il dit non, ça c'est soit ils sont énervés, et là apparemment ils étaient bien énervés, ils voulaient passer en tête au bout de la ligne droite, quoi. Donc ils font des tout droits. Ou... Il y en a un par exemple, après le départ, sur la première table, le side a été cassé en deux, quoi, carrément. Ils se sont télescopés et il y a un équipage anglais qui est resté sur place, quoi.
En parlant de motocross féminin, il y avait aussi un équipage féminin.
Exact, des Bretonnes, des Françaises. Bretonnes, oui. Ouais. On espère revoir cette année.
Mais qui ont eu un accident.
Alors, elles se sont blessées aux entraînements. Ouais. Bon, elles sont revenues l'après-midi, mais physiquement, elles n'étaient pas aptes à reprendre la compète. Ouais.
La compète. Bon, ben Dominique, alors, ces deux grands rendez-vous, c'est le trial...
Le 29 mars.
Et ce
double championnat d'Europe. Hein, on est très fiers également d'accueillir pour la première fois des féminines parce que ça met en avant le sport moto féminin. Et il y a plus en plus, dans notre championnat UFOLEP, par exemple, il y a une vingtaine de féminines. Alors elles ne font pas toutes les courses, mais qui participent, qui sont classées dans un classement séparé.
D'accord. Voilà. Ok, Dominique. Alors,
merci.
Et c'est le 30 août, il ne faut pas
oublier. Le 30 août, oui.
En pleine vacances.
Exactement.
Voilà, on retrouve la rubrique deux mots en quatre temps, c'est ça ? Je me souviens plus.
C'est ça.
Oui, c'est ça. Voilà, avec Gilou de Mes Motocross. Mes Motocross, c'est quoi, oui ?
C'est la Bible. C'est la Bible du motocross. Hein. Ça remonte à la préhistoire.
Ah bon,
sais, ils roulaient avec des roues en bois, mais en pierre. Même.
À ce point-là, Gilou.
Et Gilou connaissait les champions.
Ah oui, oui, j'étais déjà là à l'époque. Ouais.
Bonjour Gilou.
Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour les jeunes, ça va bien ?
Ouais.
Content de vous retrouver.
Ouais, parce que le mois passé, on n'a pas pu
faire
l'émission. Là, tu viens des USA. Tu viens de regarder le championnat
de San Diego.
De San Diego, 450 et 250.
Ouais.
Et tu vas nous dire les résultats parce que on ne les connaît pas.
Ah bah écoute, alors donc le championnat de Supercross a commencé en début d'année, le premier week-end, 4 janvier, ça a commencé et tous les week-ends les courses s'enchaînent. Et ce week-end à San Diego, je commence par quoi ? Par les 250 ? Qu'est-ce que tu préfères ?
Allez, 250, allez, parce qu'il y a le français.
Eh ben, tu peux chanter une Marseillaise.
Ah.
Donc Dylan Ferrandis vient de gagner la course en 250 cm3. Et donc il est leader du championnat, il est en tête, il a très bien roulé. Et ce qui fait plaisir, c'est que c'est la sixième épreuve, hein, le San Diego.
Ouais.
Et ce qui fait plaisir, c'est que ça fait depuis deux épreuves qu'il part bien. C'était son gros problème depuis le début du championnat, c'est qu'il partait mal. Donc, quand tu pars mal, il faut remonter. Il y a plus de risques de chute en doublant les attardés, tout ça. Enfin bon, c'est difficile. Et là, il part bien. Et ça va tout de suite beaucoup mieux. Et d'ailleurs, sur les quatre dernières courses, il en a gagné trois. Il a fait une fois second, donc c'est parfait. Et puis, surtout, ce qui est très bien, c'est que son principal adversaire, le plus rapide, il a deux adversaires. Il a son coéquipier, c'est Justine Cooper, qui avait bien commencé, mais qui depuis stagne un petit peu. Il est un petit peu dépassé au niveau de la vitesse. Et surtout Austin Faulkner, qui est donc un Américain également, qui pilote Kawasaki, alors que Dylan, c'est Yamaha. Et c'est plutôt Austin Faulkner, son principal adversaire. Et aujourd'hui, Faulkner était parti donc en tête. Dylan était rapidement parti dans les meilleurs. Hein. Il était, je sais plus, troisième, quelque chose comme ça, donc c'est un très bon départ. Et rapidement, il était dans la rue de Faulkner. Et il l'a doublé. Et pas de problème, quoi. Il l'a doublé, il est remonté, et puis il l'a doublé à la régulière, et il a gagné. Donc c'est une course. Vraiment qui, pour moi, marque vraiment un tournant dans le championnat en faveur de Dylan, parce que il a fait ce qu'il fallait pour que ça marque psychologiquement ses adversaires, et notamment Faulkner. Mais sinon, c'est ces trois pilotes, hein, c'est Ferrandis, Justin Cooper et Faulkner qui font le championnat. Ils sont quasiment, ça fait deux fois de suite qu'ils font que c'est le même podium. Hein. Les vainqueurs deuxième et troisième, ils font ça pratiquement chaque week-end. Donc ce sont les trois pilotes qui sont au-dessus du lot. Et ça sera l'un d'eux qui sera champion cette année. Je pense que Dylan l'a marqué vraiment des gros points, surtout psychologiquement. Il n'a pas beaucoup d'avance. Il a que 7 points d'avance sur Cooper au championnat et 13 sur Faulkner. Donc il reste 4 épreuves, sachant qu'une victoire, c'est 26 points. Donc tout est à faire. Mais quand même.
Mais tu dis qu'il l'a doublé assez facilement. Il n'a pas fait de bloc passe parce que le championnat, US, alors c'est de la boucherie, hein, quelquefois.
Ouais, c'est surtout ce qui s'est passé, c'était un AM2, c'était donc la troisième épreuve, parce que je pense que c'est de ça que tu veux parler. Il y a eu un accrochage assez fort entre Dylan Ferrandis et l'Américain Christian Craig. Et bon, disons que Dylan avait fait une manœuvre pour le doubler un petit peu viril, on va dire, et puis il l'avait mal contrôlé cette attaque, ce qui fait que les deux pilotes sont tombés. Christian Craig a dû abandonner parce que son guidon était complètement plié, donc c'était foutu. Dylan est reparti tout de suite et il était à ce moment-là second, et puis il est remonté sur un jeune pilote Jet Lawrence. C'est un petit nouveau, celui-là, c'est un Australien, mais alors c'est un pilote, il a 16 ans, mais il est extraordinaire. C'est vraiment, là, on tient encore un très grand pour l'avenir. Et il était, ce petit jeune, il était en tête dans le dernier tour, et Dylan a réussi aussi à le doubler. Et puis d'ailleurs, le pauvre, il est un petit peu déconcentré, Jet Lawrence. C'est ce qui fait qu'il a fait une erreur et il a chuté à quelques mètres de l'arrivée alors qu'il était encore second. Et du coup, il s'est blessé, s'est fracturé la clavicule.
Bon. D'accord.
Donc, mais je dirais presque que c'est le métier qui rentre, assez triste à dire, mais c'est l'expérience. Il avait un petit peu plus assuré, il a terminé deuxième sans problème, mais vraiment c'est un jeune qui va falloir suivre dans l'avenir. Mais bon. Donc Dylan, à partir de là, il a été un petit peu sanctionné par la fédération américaine, dans le sens où il a eu un avertissement, quoi. C'est-à-dire qu'il a un sursis et faut qu'il se calme un petit peu dans ses dépassements. Ce qui fait que ça gêne un petit peu, hein, parce qu'en supercross, les dépassements, c'est souvent viril, hein. Il y a ces blocs basses qu'on appelle, c'est-à-dire vraiment le pilote qui est derrière, il vient s'appuyer sur celui qui est devant pour le doubler dans les virages en général. Et voilà, c'est des courses, bon, c'est du supercross. Alors évidemment, il y a quand même, je dirais, une règle un petit peu quand même, faut pas faire n'importe quoi. Bon, parfois, les pilotes sont un petit peu embarqués. Bah Dylan avait fait un petit peu la même chose.
Gilou, on va passer en 450.
Oui, on passe en 450. Oui.
On te repassera de la musique et puis on repart avec les Grands Prix.
Oui, alors là en 450, eh bien écoute, victoire. Alors là c'est pareil, c'est un championnat de dingue parce que c'est aujourd'hui victoire de Cooper Webb qui est le champion en titre et qui a gagné l'épreuve en doublant Chancharulo, qui est lui vraiment, c'est le rookie, hein. Chancharulo.
Ah ouais, en effet, ouais, il roule bien lui. Hein, ouais.
Ah oui, ça, il est très rapide, il fait toujours les meilleurs temps en qualif, etc.
Il est jeune aussi, hein, il est...
Oui, il est jeune, mais et puis en plus il part hyper bien, c'est-à-dire qu'il est tout le temps, le premier virage, il est quasiment tout le temps là. Hein. Donc c'est vraiment un très très bon. Il peine encore un petit peu physiquement, je pense qu'il a encore besoin d'acquérir un petit peu d'expérience avec la catégorie 450, hein. C'est pour lui, c'est son nouveau championnat qu'il prend cette année, parce qu'il venait du 250, et donc voilà, en supercross, il est obligé de s'habituer un petit peu à cette catégorie, et puis avec, c'est pareil, au niveau des adversaires, c'est pas tout à fait les mêmes qu'en 250, hein. C'est des garçons, ils ont tous de l'expérience, t'as Roxen, l'allemand Roxen. Alors malheureusement, on n'a pas Marvin cette année. Marvin Musquin s'est blessé durant l'hiver. Et sa saison de Supercross est complètement mise de côté. Il ne pourra pas revenir en Supercross. On espère qu'il reviendra pour la saison de Motocross US qui démarrera au mois de mai. Mais pour le Supercross, de toute façon, c'est terminé. Alors ce qui fait que Cooper a gagné devant Chancharulo et Baguette. Tomac et puis Roxen étaient mal partis, ils sont remontés, mais Roxen difficilement. Bon, il était un petit peu blessé au pied suite à la semaine dernière, il a eu un dépassement de Cooper Webb sur lui.
Il a fait
un petit peu au pied, ben, c'est pareil, encore un petit. Mais bon, malheureusement, c'est le supercross, hein, c'est les attaques pour doubler, la piste n'est pas large. Tous les obstacles, c'est très très rapproché, donc c'est très difficile. Et ce qui fait qu'on a un championnat de fou, parce que là, au niveau du championnat, t'as Roxen qui est en tête avec 130 points, devant Tomac à 1 point, 129 points, et le troisième, c'est Cooper Webb, donc qui est revenu, qui a 121 points, donc il est à 9 points du leader, ce qui fait que c'est à zéro, quoi. Je veux dire, au bout de 6 épreuves, il y en a 17 au championnat. Donc là, tout est à faire, mais c'est des courses, cette année, on a vraiment des courses fantastiques. Hein. Il y a vraiment une intensité, c'est magnifique, hein, le Supercross.
Mais il faut savoir aussi que, bon, c'est des courses chaque dimanche, hein, chaque week-end.
Ah, ça enchaîne.
Et puis le moindre bobo, le moindre chute, et puis adieu le titre.
C'est tout de suite, si tu veux, dans ce style de championnat, tu as le droit à une erreur. Il y a, je veux dire, une erreur où quelqu'un qui court pour le titre, s'il est entre 10 et 15 sur une course, c'est son joker. Faut pas qu'il fasse de plus mauvais résultats. Et s'il se blesse, alors là, s'il est absent sur une ou deux épreuves, c'est terminé pour le championnat. Parce que les meilleurs marquent des gros points tout le temps. Ils font des victoires, des podiums, voire des top 5, mais ils sont vraiment devant. Et c'est impossible pour les adversaires de remonter. Hein. Faudrait vraiment un concours de circonstances exceptionnel. Mais là, on le voit, les leaders, c'est vraiment dans le... Ils ont tous fait, à un moment ou à un autre, une erreur, ce qui fait que c'est pour ça que c'est aussi serré. Mais là, on peut dire que le championnat est relancé totalement, avec ses Roxen, Tomac, Cooper Webb, Chancharulo, on a Justin Barcia également, qui est là, qui est toujours aussi fringant et puis viril dans ses attaques. Enfin, voilà, on a un super championnat aux États-Unis, super cross, magnifique. Cette année,
Barcia, il est toujours assez loin, quand même. Hein.
Hein, bah Barcia, tu sais, il a terminé cinquième aujourd'hui à San Diego. Il avait bien commencé, il avait gagné la première course. Comme l'année dernière, c'est marrant, il avait gagné la première épreuve. Ensuite, il a fait le second à Saint-Louis. Et depuis, ça va un petit peu moins bien. Mais c'est un pilote qui est toujours là et surtout qui est hyper agressif. Et lui, lorsqu'il est derrière quelqu'un, il veut le doubler. Et pour le doubler, il est en contact.
Hein, c'est vrai, parce que Barcia, il était venu ici à Lille.
Oui.
Hein, il avait gagné, mais c'est vrai que roule... L'adversaire ne doit pas avoir peur.
De toute façon, tu as quelques pilotes comme ça. Toi, tu as Barcia, tu as Cooper Webb qui est un peu dans le même style, tu as Jason Anderson, c'est pareil. Ce sont des garçons qui vont contact. C'est-à-dire, s'ils veulent doubler, ils vont contact. Bah, de toute façon, tu disais de Barcia, il a gagné Supercross à U Arena cette année, enfin en 2019, l'année dernière au mois de novembre. Il a gagné à Paris. Et voilà, c'est un garçon qui est hyper fort, Barcia. Il y a une telle concurrence, voilà, il est pour l'instant il est quatrième quand même du championnat, donc c'est quand même pas mal. Hein. Mais on le voit, il a encore du mal. Alors qu'il a gagné, la première épreuve, il a fait second à l'autre, et depuis il fait plutôt 5 ou 6 quoi. Donc la concurrence est terrible, terrible.
Ok, enfin, Gilou, on va pas te couper, on va te laisser parler du MX GP. Ouais. Et MX2,
ah ouais,
qui va commencer dans 3 semaines,
oui.
Le 1er mars en Angleterre.
Oui.
Et en Angleterre, ils n'ont même pas peur, parce que commencer un championnat au mois de mars en Angleterre, il peut encore avoir de la neige.
Ben, il peut y avoir, ça risque d'être un terrain gras.
Gras, ouais.
On va dire plutôt un terrain gras déjà. La neige, je ne sais pas, mais il risque de... Oui, effectivement. Mais d'ailleurs, ça va enchaîner ensuite avec Valkes Vaart aux Pays-Bas. Et l'année dernière,
c'est du sable,
je crois qu'il y avait eu de la neige. Hein.
Ouais, mais il y a du sable, hein, donc...
Oui. Non, mais c'est au niveau du froid.
Ah ouais.
C'est comme ça. Après, c'est le promoteur qui fait son calendrier. On avait l'habitude de commencer plutôt en Argentine. Bon, là, l'Argentine sera le troisième Grand Prix. S'il a des difficultés. Faut voir qu'en championnat du monde, on va se retrouver avec 20 grands prix. Hein. Donc, ça commence le 1er mars, comme tu l'as dit, en Angleterre. Et on va retrouver, les deux catégories, hein, 450 et puis 250. Avec, là aussi des Français. Bon, en 450, on a un peu toujours les mêmes Français. Hein. Ça va être encore, Paulin, Romain Fèvre,
ouais.
Et puis Benoît Paturel, il y aura sûrement Jordi Tixier. Voilà, ce sont en 450, ce sont des types de pilotes. Avec notamment Romain Fèvre qui fait une nouvelle saison, lui, il revient de blessure et s'était gravement blessé l'année dernière avec une fracture du fémur et en fin de saison. Et il revient cette année sur une Kawasaki. Donc ça fait drôle parce qu'en plus, il a le numéro 3, il a changé de numéro.
Ouais, j'ai vu ça.
Et on dirait, il a exactement la même tenue que Kelly Tomac aux États-Unis, qui est le numéro 3 également sur Kawasaki.
Ah ouais.
Quand on les voit en photo et tout, on les confond.
D'accord.
C'est, voilà. Donc on va avoir nos Français en 450. Et puis surtout en 250, on va avoir des pilotes qui vont pouvoir peut-être jouer le titre. Notamment Tom Vial, on compte sur lui, puis Maxime Renaud, hein, que tu as entendu le mois dernier.
Oui,
Maxime Renaud qui
a gagné une épreuve en Italie la semaine dernière, je crois.
Voilà, ouais. Bah oui, il y a le championnat italien qui démarre toujours en début d'année. Il y a trois épreuves. La troisième, c'est aujourd'hui d'ailleurs, avec une rentrée de Chiroli, hein, ça va être sa première course. Donc ça va être intéressant. Ça va être cet après-midi, là, à 13h. D'ailleurs, c'est sur le net, à 13h15. On peut regarder en direct. C'est gratuit. Donc voilà, faut aller regarder ça. Et Chiroli qui fait son entrée face à Tim Gajer, qui est le champion du monde en titre. Donc ça va être intéressant aussi de voir un petit peu où le niveau... Bon, ce sont des courses de préparation. Hein. Faut pas tirer non plus des conclusions trop rapides, parce que tous ces gars-là, ils se préparent pour le mondial. Hein. D'ailleurs, c'est un petit peu le souci maintenant avec les championnats nationaux. On en souffre, nous, en France, d'un manque de pilotes de Grand Prix pour les championnats nationaux. Et puis, on le voit qu'en Italie, même pourtant, il y a beaucoup plus d'argent en jeu qu'en France. Et même là, bon, on a vu Paulin faire la première épreuve avec Romain Fèvre. Et, bon, depuis, ils ont parcouru. Là, ils vont courir. Il y a des courses en Angleterre également ce week-end avec Aston Park. Hein. C'est une course de rentrée aussi pour Geoffrey Herlings. Donc, c'est, voilà, c'est tous ces pilotes se préparent vraiment pour le mondial. Et ça va être.
Ouais, tu parlais du mondial, hein, il y a 20 épreuves. Hein.
Ouais, 20 Grands Prix, oui.
Mais bon, pour la Chine, c'est pas certain, hein, parce que sinon, il faut rouler avec des masques là-bas. Hein.
Ah ben, écoute, la Chine, alors oui, mais bon, déjà la Chine, c'est au mois de septembre, hein, c'est le 13 septembre, donc j'espère que d'ici là, tous ces gros problèmes seront réglés.
Tout le monde sera mort.
Voilà. Mais bon, déjà, faut dire aussi que avant d'être en Chine, on aura la France, hein, on aura le Grand Prix de France à Saint-Jean-d'Angély, le 10 mai. Donc à nouveau, il y aura un Grand Prix de France avec tous les meilleurs pilotes. Donc ça, c'est très intéressant. Puis tu sais que cette année, on aura le Motocross des Nations qui va se dérouler à Ernée au mois de septembre. Donc là, là aussi, ça sera un grand moment de motocross. Ça sera la fin de la saison, mais j'espère là qu'on aura la présence des top américains, notamment, ben, comme tu dis, on en parlait là de Tomac, de Cooper Webb, j'espère qu'ils seront là, j'espère qu'on aura vraiment tous les meilleurs et puis que tout le monde sera en forme, il n'y aura pas trop de blessés, parce que l'année dernière, c'est ce qu'on a vécu en mondial, surtout, ça a été les blessures, ça a été une catastrophe, trop de pilotes blessés, et puis ça a joué sur le championnat, ça a joué sur l'intérêt du championnat, donc c'était ça qui était difficile.
Gilou, on a dépassé de 5 minutes...
D'accord, et juste un mot pour dire que le 16 février, il y a la Capelle Marival, grand cross de rentrée en France.
C'est vrai, ouais.
Et donc, c'est dans le Lot, hein, dans le 46, c'est le 16 février, et avec une affiche, alors là, de rêve, digne d'un Grand Prix, quasiment.
Et c'est pas loin de l'Ardèche, d'ailleurs, le Lot.
Ah ben oui, c'est...
Parce qu'on a l'Ardèchois dans les studios.
D'accord. Eh bien voilà, ben, s'il ne sait pas quoi faire le 16 février, parce que de Touraine, et puis même de Lille, ça fait un peu loin, je crois.
Ouais, la Capelle de Marival, en effet, ouais.
Ah ben oui, il faut partir pour la semaine. Hein.
Ah ouais, ouais. Ok, Gilou.
Oui.
Allez, on te remercie, et puis au mois prochain, alors.
Alors, au mois prochain, on fera le point sur le mondial, et sur tout ça, et puis le Supercross.
Le mix.
C'est une saison qui est très bien lancée, je suis vraiment aux anges.
Ok. Sauf qu'il a blessé le champion MX2.
Alors, là c'est, tu parles de Prado.
Oui, de Prado, oui.
Oui, de Prado, oui, tout à fait. Alors, lui,
le technicien rigole parce que je posais une question qu'il ne fallait pas.
Alors, j'en ai pour deux secondes. Prado s'est blessé durant l'hiver. Il faisait sa rentrée en 450 cm3 au championnat du monde. Malheureusement, il s'est blessé. Donc, il va faire une rentrée, peut-être une rentrée pour justement le Grand Prix de France au mois de mai. Peut-être avril-mai, pas avant, hein, de toute façon. Hein, c'est pareil.
Encore une question?
Oui.
Ah non, j'ai plus de questions.
Moi, je suis open.
Hein. Ouais, on s'en sait.
Allez, Gilou.
Oui.
Au mois prochain.
Alors, au mois prochain. Allez, je vous embrasse, les gars.
Allez, salut.
Let me see those beautiful hands up on the fucking air, goddamn. Knievel, let's land there, let's go. I'm a little less me and a little bit more real. I'm knowing where I go.
Voilà, l'émission se termine. Guy, rien à ajouter ?
Oh, si, plein de choses.
Plein de choses encore, mais c'est fini.
Il y avait le championnat du monde de course en glace.
Ah oui, la SRAS.
Aujourd'hui.
Ah, c'est aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Ou ça se termine.
C'est la troisième, quatrième Grand Prix.
Ouais, bah, écoute, on aura le temps d'en parler au mois de mars, parce que je pense qu'au mois de mars, c'est la Hollande.
Avril,
d'accord.
Le 3, le 2 et le 3.
Oh bah on a encore le temps le mois prochain d'en parler.
Il y a des membres de Kikaku qui...
Oui, voilà, très bien. Et merci Dominique. Alors, bon anniversaire pour le Motoclub des Étangs, hein, aussi.
Merci beaucoup.
Hein. Voilà, et puis alors, longue vie aussi à l'UFOLEP, hein, dans la région.
C'est une affaire qui continue, sans problème.
Voilà. Et Patrick est encore avec nous dans les studios, notre Ardéchois. Ben, bon retour là-bas en Ardèche.
Et merci pour votre accueil.
Voilà. Et puis on essaiera de faire des petites balades là-bas, en super région quand même. Voilà. Et puis Laurent, merci pour cette technique au millimètre.
Ouais, mais c'est cool.
Passez un bon dimanche, rendez-vous forcément dimanche prochain, 11h, même endroit, sur le 106,6 de Radio Campus Lille.
Salut.
Au revoir.